Évangile selon Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole, disant: Le royaume des cieux a été fait semblable à un homme qui semait de bonnes semences dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le froment et s'en alla. Et lorsque la tige monta et produisit du fruit, alors l'ivraie aussi parut. Et les esclaves du maître de la maison, s'approchant, lui dirent: Seigneur, n'as-tu pas semé de bonnes semences dans ton champ? D'où vient donc qu'il a livré? Et il leur dit: Un ennemi a fait cela. Et les esclaves lui dirent: Veux-tu donc que nous allions et que nous l'accueillions? Et il dit: Non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous ne déraciniez le froment avec elle. Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur: cueillez premièrement l'ivraie et liez-la en bottes pour la brûler, mais assemblez le froment dans mon grenier.
Arrivé au moment où nous abordons à proprement parler les paraboles du royaume des cieux, nous avons pensé qu'il serait bon d'essayer d'expliquer autant que nous pouvons le faire et sans être exhaustif ce que cette notion recouvre comme enseignement pour nous aujourd'hui. C'est une notion qui souvent est floue dans l'esprit. On confond royaume des cieux, royaume de Dieu, royaume de notre Père, royaume du Fils de l'homme, royaume du monde de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'expressions, mais qu'il ne faut pas confondre, qui pourtant ont trait à une bénédiction centrale qui se situe en relation avec le royaume. Une des bénédictions les plus sensibles auxquelles nous avons part, c'est que Dieu nous appelle à son propre royaume et à sa propre gloire. Du Seigneur Jésus, Apocalypse 1, nous lisons: il nous a fait un royaume, des sacrificateurs pour son Dieu et Père. Et tout à l'heure, il sera manifesté que nous serons bien dans cette position glorieuse avec le Seigneur comme roi. Fin de l'Apocalypse, comme roi et sacrificateur. La notion du royaume mérite donc toute notre attention. Et pour autant que nous pouvons le faire, nous allons essayer de rattacher cette expression, le royaume des cieux, à ce qui précède pour la rendre aussi claire que possible dans nos esprits. Il faut d'abord nous souvenir que, selon le propos de Dieu, il a voulu faire des promesses à Abraham. Et nous l'avons rappelé tout à l'heure dans une prière, je crois, que Dieu s'est présenté à Abraham comme le Dieu tout-puissant, le Dieu d'éternité. Genèse 21. Il se présente aussi comme le Dieu de gloire. Il est apparu à Abraham, notre Père, acte 7, le Dieu de gloire, le Dieu d'éternité, chapitre 21 du livre de la Genèse, le Dieu tout-puissant, terme qui revient souvent dans la Genèse, le roi des nations, terme que nous trouvons dans le prophète Jérémie et ailleurs aussi, où Dieu se présente devant nous dans l'autorité qui lui revient comme roi des nations. Et il dira par le prophète Malachie notamment, lorsque ce peuple s'est complètement égaré: n'oubliez pas que je suis un grand roi, dit l'Éternel. Alors, les promesses ont été faites à Abraham d'être héritier du monde, Romains 4. Voilà le point de départ. Dieu, donc, selon son propos, a choisi Abraham et a voulu faire de lui l'héritier du monde. Et ainsi, nous arrivons dans le livre de la Genèse, où cette histoire d'Abraham nous est racontée avec tant de détails, et nous trouvons qu'il était impossible, selon la nature, que cette promesse d'être héritier du monde soit réalisée en Abraham, dont le corps était amorti, et Sarah hors d'état d'enfanter. Âgés tous les deux, Dieu nous montre tout de suite que ce n'est pas selon la nature que cette bénédiction qu'il a en vue pour les hommes sera déployée. C'est impossible. Le péché a tout gâté, la mort est entrée et Dieu ne peut plus employer l'homme tel qu'il est dans sa nature pour faire aboutir la bénédiction qu'il veut lui donner. Il faut donc faire un pas de plus et arriver à Genèse 22, où nous voyons que c'est sur le terrain de la résurrection, dans une sphère nouvelle, au-delà de la mort, au-delà du jugement du péché, que Dieu pourra introduire sa bénédiction. « En toi, répète l'Éternel Abraham, affirmant ce qu'il a dit dans Genèse 12, mais d'une manière générale, dans Genèse 12, il n'est pas question de la semence, mais maintenant dans Genèse 22, au-delà du sacrifice d'Isaac, qui pour Dieu a été réalisé, et Abraham l'a reçu en figure, par la résurrection, Dieu dit, « Parce que, en raison du fait que tu as fait cette chose-là, que tu as offert ton fils, image du sacrifice que Dieu fera de son Fils, il l'a livré pour nous tous, et le sacrifice de Christ est la base impérissable sur laquelle Dieu pourra accomplir toutes les pensées de son cœur, parce que tu as fait cette chose-là, je n'ai personne de plus grand par qui jurer, je jure par moi-même, je te bénirai, et en toi toutes les nations de la terre seront bénies, et par ou en ta semence qui est Christ. » Donc, voilà un point de départ très important. Depuis le début du livre de la Genèse, la semence de la femme, nous passons maintenant à Isaac, la vraie semence que Paul précise être le Christ dans l'Épître aux Galates. Vous voyez, semence de la femme qui sera l'instrument, le moyen par lequel tout sera réparé. Nous arrivons à Isaac, type de Christ ressuscité. Voilà le canal, voilà le moyen par lequel Dieu va pouvoir opérer. Et nous avançons ainsi dans l'histoire de ce peuple. Dieu dira en le sortant d'Égypte, « Il est mon fils, mon bien-aimé. C'est un peuple que j'ai mis à part, il m'appartient. Et je ferai de vous, dit-il, un royaume des sacrificateurs. » Nous trouvons cela dans le chapitre 19 du livre de l'Exode, comme nous le savons. « Toute la terre est à moi, je suis le roi de toutes les nations. » Vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà donc ce que Dieu veut faire de son peuple, descendance d'Abraham. Et nous continuons ainsi l'histoire de ce peuple jusqu'au moment où Dieu va préciser comment et par qui cette bénédiction va prendre effet sur la terre. Et nous arrivons à l'histoire de David, précédée de celle de Saül. Le peuple d'Israël a voulu être une nation comme toutes les nations, et ils ont dit à Samuel, « Nous voulons un roi comme toutes les nations. » Et Samuel est désolé, nous le savons, mais l'Éternel lui dit, « Eh bien, écoute, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté, parce que j'étais leur roi, et ils ne veulent plus de moi, ils ne veulent plus de mon autorité. » Sauf que Dieu dit, « Eh bien, maintenant, il faut les laisser faire. » Et Dieu leur donne un roi selon leurs sentiments, selon leur tout ce qui peut les captiver, tout ce qui peut répondre à leur préférence, un homme d'une stature et de qualité exceptionnelle, c'est Saül. Hélas, j'ai dû ôter Saül. L'expérience de ce que l'homme dans la chair est dans tous les niveaux et dans toutes les occasions, c'est toujours révélé. Pareil, de sorte que Saül est mis de côté, et l'Éternel dira à Samuel, « Mais j'ai maintenant, je ne répare pas ce que l'homme a déchiré, mais je vais introduire quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur, et j'ai un roi selon mon cœur, c'est David. » Et à David, Dieu va donner la couronne du royaume, va le prendre d'épargne auprès de son père, comme David, jeune homme méprisé, sans doute méconnu, mais Dieu dit, « C'est celui-là. » Type de Christ, il a de beaux yeux, il a de beaux traits. C'est un homme qui a des qualités exceptionnelles et qui a montré toutes les vertus de la foi lorsque, au désert, il s'est mesuré avec le lion et avec l'ours, délivrant les brebis de son père. Voilà celui que Dieu a choisi, mais connu par ses frères. Ah, il y a encore David qui garde quelques brebis, mais personne ne semblait se soucier de lui. Mais Dieu avait vu la beauté de David, les beaux yeux, les beaux traits de David et les qualités qui nous introduisent dans ce que Christ serait en perfection. Et Dieu va donc préciser à David que ce serait lui qui serait maintenant établi sur le trône d'Israël, à Hébron, en relation avec la caverne de Hébron, montrant bien que, au-delà de la mort vaincue, la couronne sera mise sur la tête de Christ, à Hébron, lieu où il n'y a que des ossements, mais la croix et la gloire se touchent. Et enfin, Dieu va dire à David, dans le premier livre des Chroniques, entre autres, pour ne pas trop nous étendre, nous ne voulons pas prendre toute la place, vous pensez bien, mais dans Chronique 17, il y a un passage fort important. L'Éternel va dire à David, « J'ai établi au verset 9 un lieu à mon peuple Israël, je le planterai, et il habitera chez lui. » Donc, déterminer un endroit où Israël sera planté, le plus bel endroit de la terre, un ornement de tous les pays. Un lieu où je l'ai planté, et ensuite, je subjuguerai tous ses ennemis, et je t'assure, je t'annonce que l'Éternel, à toi, David, va te bâtir une maison, verset 10. Et ensuite, quand tes jours seront accomplis, je susciterai après toi ta semence. Et en sous-entendu, nous avons Christ placé devant nous, je susciterai après toi ta semence qui sera non pas ton fils, mais un de tes fils, et j'affermirai son royaume. Lui me bâtira une maison et j'affermirai son trône pour toujours. Voilà la bénédiction précisée. Le fils de David, mais au-delà de Salomon, nous avons Christ, va aller bâtir la maison et être établi sur le royaume. Hélas, Salomon et tous ceux qui l'ont suivi n'ont pas pu maintenir les privilèges que Dieu avait placés dans leurs mains. Et quand le temple a été construit au beau jour de Salomon, Dieu ne manque pas de préciser un avertissement solennel en disant « Mais cette maison, si glorieuse qu'elle soit, elle sera détruite et je vous arracherai de dessus votre terre. » Et le livre d'Esdras nous donne une expression que chacun doit bien retenir parce que c'est un verset très très important. Dans le chapitre 5 du livre d'Esdras, nous avons la réponse à la question de ceux qui allaient passer à Jérusalem et qui allaient dire « Mais pourquoi Dieu a-t-il fait ainsi à cette maison? Pourquoi n'en subsiste-t-il plus que des ruines? Pourquoi ce peuple a dû aller en captivité? Pourquoi Dieu a dû agir ainsi à son égard ?» Eh bien, la réponse se trouve dans Esdras 5. « Mais quand nos pères, verset 12, provoquèrent le Dieu des cieux, il les livra en la main de Nebuchadnezzar, roi de Babylone le Chaldéen, et il détruisit cette maison. » Donc, voilà la réponse concise, mais combien solennelle. Quand nos pères provoquèrent le Dieu des cieux, Dieu était retourné au ciel, c'est-à-dire que la gloire de Dieu était retournée au ciel. Et cette expression est très importante dans ce chapitre 5 du livre d'Esdras, parce que vous voyez, ces hommes de Dieu savent bien que Dieu a dû ôter sa gloire de Jérusalem et qu'elle est retournée au ciel. Et Dieu est devenu le Dieu des cieux. Et voilà déjà une expression qui va nous approcher de celle du royaume des cieux pour nous la faire comprendre. Eh bien, voilà pourquoi Dieu agit ainsi. Parce que nos pères l'ont provoqué à colère, le royaume a pris fin, la maison a été brûlée, la gloire est retournée au ciel, et Dieu est maintenant le Dieu des cieux. Il n'a plus son trône sur la terre. Le trône n'a plus été rétabli sur la terre. Le gouvernement est alors confié à Nebuchadnezzar, aux nations. Et comment ces nations vont-elles se comporter? Nous disons seulement un mot qui est connu de chacun. Il est évident que l'épreuve de l'autorité a été confiée aux nations. Et chaque nation, aussi bien les Babyloniens que les Médo-Perses, que les Grecs et que les Romains, tous ont été pesés à la balance et se sont révélés incapables de se tenir à la hauteur des privilèges que Dieu avait placés dans leurs mains. De sorte que ce royaume, aussi bien des nations que d'Israël, a été balayé, a été mis de côté pour arriver maintenant à ce verset très important de Daniel 7, et nous arrivons à la fin de notre petite introduction sur ce sujet. Daniel 7, verset 11, « Je vis jusqu'à ce que la bête fut détruite, et ensuite, donc, la quatrième bête qui a été détruite, qui reparaîtra sans doute, mais nous n'allons pas entrer dans ces détails. Et le verset 13, c'est une nouvelle vision de la nuit pour présenter devant nous celui qui paraît devant l'Ancien des Jours et qui sera lui-même identifié avec l'Ancien des Jours dans le livre de l'Apocalypse et à qui maintenant la domination, l'honneur, la royauté sont données et c'est un royaume qui ne cessera plus jamais. Voilà donc maintenant comment Dieu opère. Ayant retiré l'autorité de son trône à Jérusalem, l'ayant ôté aux nations, il le confie à celui avec lequel ce trône sera identifié et affermi pour toujours, une domination éternelle qui ne passera jamais. Et quand il paraît sur la scène, chers amis, voilà maintenant encore un grand pas qui est fait dans l'histoire des voies de Dieu sur la terre, quand le Seigneur paraît sur la terre, c'est le Fils de l'homme. Et il dira, le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer la tête, mais de lui, l'ange dira, je lui donnerai de la part de Dieu, je lui donnerai le royaume de son Père. Et c'est un royaume, Luc 1, qui n'aura jamais de fin. Sorte que nous comprenons bien maintenant, là, quelque peu la signification de cette expression, le royaume promis, car après avoir mis Israël de côté, après avoir enlevé les privilèges aux nations, Dieu alors introduit, quand le temps convenable est là, les 70 semaines de Daniel interviennent dans ce sujet, le temps est là, le Seigneur est présenté, et celui qui le précède, Jean-Baptiste, peut dire, eh bien vous voyez, le royaume des cieux s'est approché. Pourquoi le royaume des cieux? Il n'est cité que dans l'évangile selon Matthieu, le seul évangile qui nous présente le Seigneur Jésus comme le roi, livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Mais tout de suite, nous l'avons vu hier, cela nous a intéressé pendant quelque temps. Israël rejette le Messie, rejette celui qui est le roi, rejette celui qui est le prince, c'est le même terme. L'homme moins, le Messie, le roi, c'est le même terme. Ils attribuent ces miracles au chef des démons. Les pharisiens essayent de le faire périr, de sorte que le royaume est déjà, la bénédiction du royaume est déjà repoussée par le peuple. Dès lors, le Seigneur sort de la maison, se tourne vers les nations. Nous avons la parabole du semeur avec tous les résultats qu'elle produit. Et maintenant, voici devant nous, et nous arrêtons là, voici devant nous la forme revêtue par la prédication de cette parole du royaume au milieu des hommes qui va amener sur la scène le royaume des cieux. Quand le Seigneur sera ressuscité, sera établi au ciel, alors virtuellement le royaume des cieux aura commencé. Après son rejet, ce sera l'établissement du royaume des cieux qui n'était qu'annoncé par Jean-Baptiste et par le Seigneur. Mais virtuellement, le royaume des cieux n'a commencé que lorsque le Seigneur est remonté au ciel. Pour faire place ensuite au royaume de Dieu, chapitre 17 de l'évangile selon Matthieu, ce sera alors le royaume en puissance. Mais maintenant, c'est un royaume en mystère. Le roi est retourné au ciel et les choses dans le monde prennent une allure, prennent une forme mystérieuse, il y a des mystères, et il semble que le Seigneur est loin de ce royaume, ne s'en occupe nullement. Mais le travail de Dieu se poursuit, et nous allons avoir devant nous trois paraboles qui nous montrent le côté extérieur de ce royaume des cieux, de cette forme revêtue, à la suite de la prédication de la parole de Dieu dans le monde, de ce qui est survenu, à la suite de cette publication de la parole de Dieu, trois paraboles pour montrer le côté extérieur des choses, mais trois paraboles pour nous montrer aussi ce qui est précieux pour le cœur du Seigneur.
Très courte remarque, encore au sujet du royaume, nous voyons donc qu'il n'est pas territorial ce royaume. Ce n'est pas encore un royaume universel, terrestre, comme ceux que nous connaissons. Mais il a des sujets, ce royaume. Et les sujets du royaume, ce sont les disciples. Ce sont ceux dans le cœur desquels la semence a été jetée. Donc il n'est pas institué par la puissance. Il viendra un moment où il y aura un déploiement de puissance pour instituer le royaume. À l'aube du millénium, n'est-ce pas, nous voyons la puissance de Dieu en jugement qui va se manifester, et le royaume sera institué par la puissance. Aujourd'hui, il n'est pas institué par la puissance. Nous avons lu hier comment il est institué. Il est institué par la réception de la parole. Alors la parole est semée. Ce n'est pas un roi glorieux qui sort du ciel, c'est un semeur qui vient, qui jette la semence. Et la semence va, dans le monde, avoir de l'effet ou ne pas en avoir, comme nous l'avons vu. C'est le même semeur, c'est la même semence, la parole, mais ce sont des terrains différents. Et ces terrains différents, ce sont les cœurs des hommes. Alors, ici ou là, la semence est reçue. Ailleurs, il y a des éléments, comme nous l'avons vu hier longuement, et nous ne revenons pas sur ce sujet. Nous avons devant nous le passé directement maintenant aux paraboles suivantes. Mais la parole est rejetée, il y a des éléments qui empêchent qu'elle pénètre, et puis il y a des cœurs, par la grâce de Dieu, et nous aimons à penser qu'ici, c'est la majorité, sinon l'ensemble de chacun des cœurs de ceux qui sont ici présents, qui a reçu cette parole de Dieu. Ce que Pierre appelle la parole implantée, qui a la puissance de sauver les âmes.
Donc, dans le chapitre 13 de l'Évangile selon Matthieu, il y a 7 paraboles. Mais la première, la parabole du semeur, n'est pas à proprement parler une parabole du royaume des cieux. C'est quand même une parole. Du reste, en français, le mot parabole n'est qu'une dérivation du mot parole. Alors le mot parabole signifie une similitude ou une comparaison. Le Seigneur dit en effet, dans l'interprétation de la parabole du semeur, au verset 18, « Vous donc écoutez la parabole du semeur toutes les fois que quelqu'un entend la parole du royaume. » Donc la parabole du semeur est une parole du royaume, mais pas à proprement parler du royaume des cieux. Il y a donc d'une part une parabole préalable dans ce chapitre, la parabole du semeur, et puis 6 autres paraboles qui sont alors très clairement énoncées comme étant les paraboles du royaume des cieux. Et ces 6 paraboles du royaume des cieux se divisent en 2 catégories. D'une part, nous avons 3 paraboles par lesquelles nous voyons l'introduction du mal dans cette sphère qui s'appelle le royaume des cieux. Il y a des personnes mauvaises, les fils du méchant, il y a des doctrines corruptrices qui sont introduites dans ce royaume. C'est ce que représentent les 3 paraboles du royaume des cieux dont on vient de faire la lecture. Il y a donc tout d'abord la parabole de l'ivraie, c'est la parabole du grand mélange, nous voulons dire, en disant cela, le mélange du bien et du mal. Il n'y a pas que du bien, il y a du mal qui s'introduit dans un tel domaine, le royaume des cieux. Deuxièmement, il y a l'orgueil, une immense prétention. On veut devenir une grande puissance, et au cours des âges, la chrétienté est bien devenue cela, ayant même à ses pieds le pouvoir civil et le pouvoir militaire. Et enfin, troisièmement, alors il y a spécialement l'élément de la fausse doctrine représentée par le levain. Parabole de l'ivraie, parabole du grain de moutarde, symbole de l'orgueil, et enfin la parabole du levain, symbole, image du faux enseignement, de la doctrine corruptrice qui a envahi, et ça n'a pas été longtemps après le temps des apôtres, chers amis. Rapidement, déjà, des fausses doctrines ont pris naissance au sein d'un tel royaume. Et alors, dans les trois dernières paraboles, qui sont introduites régulièrement par cet adverbe « encore, encore, encore », nous avons alors, par voie de contraste, ce qui est cher au cœur de Dieu, ce qui est cher au cœur du Seigneur, et à notre humble avis, il ne fait nul doute qu'il s'agit là de l'Assemblée. De l'Assemblée, nous ne croyons pas qu'il soit question du peuple d'Israël, du moment qu'on en finit maintenant avec ce peuple est rejeté, le Seigneur est sorti de la maison, il est rejeté, le Seigneur reprendra les relations avec ce peuple plus tard, entre-temps, il y a alors le mystère merveilleux de l'Assemblée. Et nous pensons que pour suivre l'ordre et chronologique et dispensationnel et moral des faits dans ce chapitre 13, il est question du moment qu'Israël est rejeté, et il est question de l'Assemblée comme étant ce qui est très cher au cœur de Dieu, ce qui est comparé à un trésor comme aussi à une perle de très grand prix. Donc, trois paraboles du royaume des cieux, image du mal s'introduisant dans ce royaume. D'autre part, trois paraboles, les trois dernières, représentant ce qui est cher au cœur de Dieu, c'est-à-dire l'Église ou l'Assemblée. La première de ces six paraboles est la parabole de l'ivraie. Verset 24. Verset 24. Il leur proposa une autre parabole disant « Le royaume des cieux a été fait semblable à un homme qui semait de bonnes semences dans son champ. » Depuis le verset 36 au verset 43, nous avons l'interprétation, nous avons l'exposition d'une telle parabole par le Seigneur lui-même à la demande des disciples. Et par cette exposition, nous arrivons à comprendre tout ce qui nous est dit dans la parabole elle-même. Le royaume des cieux a été fait semblable à un homme qui semait de la bonne semence. Cet homme, c'est le Fils de l'homme, dit le Seigneur, qui semait de bonnes semences dans son champ. Mais voici que le Seigneur n'est pas seul, il y a des hommes avec lui qui travaillent à un tel ensemencement. Il y a le semeur et il y a ceux qui l'associent à un tel service, il y a ces hommes. Et pendant qu'ils dorment, voici que l'ennemi du semeur est venu et il a semé de l'ivraie parmi le froment et s'en est allé. Le Seigneur est donc le semeur, mais il s'associe des collaborateurs, les siens, à un tel service. Nous avons rappelé hier le psaume 126, il est parlé de ceux qui sèment, ils sèment avec larmes, mais aussi ils moissonneront avec chant de joie. Et puis, le dernier verset, il en est un qui s'en va, portant, jetant la semence avec larmes, c'est le Seigneur Jésus lui-même, annoncé déjà prophétiquement par le psalmiste. Il y a un autre passage où il nous est parlé, pas seulement d'un semeur, mais des semeurs. Nous le connaissons dans le livre du prophète Ésaïe, où il nous est dit à la fin du chapitre 32e, il est dit ceci au dernier verset, « Bienheureux, vous qui semez près de toutes les eaux, en voyant partout le pied du bœuf et de l'âne. Bienheureux, vous qui semez près de toutes les eaux. » Toutes les eaux, ne sont-ce pas là les nations, ne sont-ce pas là tous les hommes, quels qu'ils soient, quiconque, comme on a insisté hier après-midi, quiconque, auprès de quiconque, la parole de Dieu est présentée. À quiconque, alors, ait la responsabilité de recevoir cette semence répandue, cette parole exposée. Il est bien heureux, ils sont bien heureux, ceux qui sèment près de toutes les eaux. Et voici que pendant qu'on dort, l'ennemi vient et il essaie de livrer par mille froments, et puis il s'en va. Et lorsque la tige est montée et a produit du fruit, alors livré aussi par eux. Il y a, chers amis, un enseignement qui est donné par le Seigneur dans cette parabole de livrée concernant ce qui arriverait au témoignage nouvellement suscité, nouvellement créé, le témoignage chrétien. Et au cours des années et au cours des siècles, il y a eu toute cette manifestation d'éléments qui pouvaient parler de Dieu, et on parle même du bon Dieu, on pouvait parler du Christ, on pouvait parler de la Bible, tout autant de concepts dont on parle, mais sans avoir la vie de Dieu. Il y a donc d'un côté la bonne semence, il y a ceux qui ont reçu véritablement le Seigneur, ils ont la vie de Dieu, mais d'un autre côté, il y a tous ceux qui simplement font profession, ils parlent de Dieu, du Christ, etc., mais ils n'ont nullement la vie de Dieu. C'est cela, livrer. Livrer, c'est pas seulement des mauvais enseignements, c'est pas seulement des fausses doctrines, mais ce sont les gens même, les individus qui propagent de telles doctrines. Du reste, le Seigneur le dit dans l'exposition de la parabole, un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'il dit, livrer? Il dit pas, le Seigneur, c'est les mauvais enseignements. Le Seigneur dit, livrer, ce sont les fils du méchant, verset 38. Et ce sont ces fils du méchant qui font ce mauvais travail et qui apparaissent comme étant des gens, tout en parlant de Dieu, des gens qui n'ont pas du tout la vie de Dieu. Donc, la parabole de l'ivraie est l'image de ce grand mélange du bon et du mauvais qui n'a pas tardé à caractériser ce qui est appelé ici le royaume des cieux, ce royaume dont le roi est actuellement caché dans les cieux. C'est cela, notre frère vient de nous le présenter, c'est cela, ce royaume des cieux. Alors sur la terre, il y a des bons ouvriers, on répand la parole, elle est reçue avec joie, elle est reçue dans le cœur, ce sont les fils du royaume. Puis d'un autre côté, il y a ces mauvais éléments, ces fils du méchant, ces délégués du diable lui-même, qui énoncent toutes sortes de faux enseignements, de fausses doctrines. Livrée étant cela, mais livrée représentant d'abord ceux qui font ce mauvais travail, c'est-à-dire les fils du méchant.
Peut-on penser à ce verset du livre des Actes au chapitre 20, acte 20, au verset 30, où il est dit, il se lèvera, c'est l'apôtre qui parle, il se lèvera d'entre vous-même, des hommes qui annoncent des doctrines perverses pour attirer des disciples après eux. C'est pourquoi veillez. Vous souvenant que durant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec l'âme. Et dans cette parabole, on voit que les collaborateurs se sont endormis, ils ont dormi. Et c'est pendant, en effet, qu'ils dormaient que l'ennemi vint. Est-ce qu'on ne peut pas penser à ce verset où l'apôtre déjà voyait ces choses, cette ruine qui allait commencer au sein de ce qui était si beau au début?
D'autres qui avertissent, donc Paul dans le passage qui vient de nous être lu en acte 20, et puis nous avons dans la deuxième épître de Pierre un tableau terrible dans le second chapitre de cette corruption qui allait pénétrer dans l'Église. N'entrons pas dans les détails, n'est-ce pas, mais c'est pour que chacun puisse se faire sa recherche. Et puis dans l'épître de Jude, alors à la veille des jugements, nous avons cet épître de Jude qui aurait voulu pouvoir parler de sujets heureux et édifiants et puis qui est obligé de mettre en garde comme une trompette avant les jugements et avertir au sujet de ceux dont il est question là, ceux-ci qui sont des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, etc. On voit donc cette introduction. Dieu qui savait tout d'avance n'a pas manqué d'avertir les siens, et puis par manque de vigilance, parce que les hommes dormaient, le côté humain c'est la défaillance, alors l'ennemi en profite. L'ennemi s'introduit. Et là, dans notre passage, il n'est pas question, dans notre parabole, il n'est pas question de terrains différents. On peut dire l'ivraie prend dans tous les terrains. Et elle n'a pas besoin de soins particuliers. On nous dit que c'est une plante qui ressemble au blé, donc ça pousse et au début on ne voit pas de différence. Quand on n'a pas l'œil exercé, n'est-ce pas, on ne se rend pas compte. Mais voilà l'ivraie qui pousse. Et alors, pas question d'épines ni de terrain rocailleux, l'ivraie ça pousse sans problème, nous dirions. L'ivraie pousse et puis la voilà qui est mélangée au froment. Que faire ? Là est la difficulté, parce que si, comme le maître le dit, le maître qui est averti aussitôt de ce qui se passe, et qui désigne l'ennemi qui a fait cela, alors il y a un risque, c'est de déraciner le blé en même temps que l'ivraie. Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson. Et nous avons là une grande vérité, c'est que, confirmée par l'observation, par la réalité, par ce qui s'est passé, c'est que la chrétienté est devenue un vaste système où il y a un mélange indiscernable, sauf à l'œil du Seigneur, entre ce qui est le bon grain, le froment qui porte du fruit pour lui et ce qui n'est pas de lui. C'est ce qui, sous une autre image, nous est décrit comme la grande maison. Dans une grande maison, les vases à honneur et à déshonneur, deuxième épître à Timothée, ou bien la construction du chapitre 3 de la première épître aux Corinthiens, où il y a des bons matériaux, des mauvais, tout ça, un vaste mélange, impossible à discerner, sauf pour le regard du Seigneur, qui lui le distingue, et qui laisse pousser, jusqu'à ce que le fruit soit produit, et qui recueillera alors sa moisson, laissant l'ivraie lié en botte pour être brûlé. Et c'est remarquable de voir la concordance avec l'annonce qui nous est faite de l'enlèvement de l'Église avant les jugements qui tomberont. L'ivraie sera brûlée. Mais c'est l'inverse de ce que avaient l'intention de faire les ouvriers. Enlever d'abord l'ivraie pour laisser le bon grain, non, dit le maître. C'est le contraire qui se produira. C'est la moisson qui sera enlevée, qui sera retirée, qui sera engrangée. Et là, on a déjà en figure, n'est-ce pas, l'enlèvement de l'Église, recueilli dans le ciel. Et alors, l'ivraie restera et subira le feu du jugement. Mais c'est important de voir dans quel ordre se font les choses. Parce qu'on en prend prétexte dans la chrétienté pour dire, mais vous voyez bien que tout cela est normal et que... Bon, vous vous retirez, vous autres, du milieu de la ce que vous appelez les systèmes. Vous vous en retirez. Vous voyez donc bien qu'il faut séparer les choses maintenant. Vous voyez donc bien qu'il faut intervenir, qu'il faut que l'homme y mette sa main pour séparer. Bon, alors, et il ne s'agit pas de la même chose. Si nous avons à nous retirer de ce qui est manifestement mauvais pour nous rassembler sur la terre, il ne s'agit pas
de la grande chrétienté dans laquelle nous restons. Pouvons-nous retirer de, et nous devons le faire, de ce qui est caractérisé par le mal. Mais nous continuons à appartenir à la grande maison. Nous faisons partie de la profession chrétienne qui, dans son ensemble, comporte ainsi ce qui est selon Dieu et ce qui n'est pas selon Dieu. Parabole de l'ivraie, elle est extrêmement éclairante quant à l'état actuel des choses dans la chrétienté qui nous entoure et dont nous faisons partie.
Du passage que notre cher frère a lu tout à l'heure concernant les adieux de l'apôtre Paul aux frères de l'assemblée à Éphèse, adieux qui eurent lieu à Milet. Elle est remarquable, cette expression, et combien affligeante. Je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Il se lèvera d'entre vous-mêmes des hommes. Ils ne sont pas venus de quelque association fort lointaine, au nord ou au sud du globe, absolument pas. Mais d'entre vous, d'entre le milieu chrétien, voilà, il sortira des hommes redoutables. Ils n'épargneront pas le troupeau. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'affligeant, chers amis, quand on pense que d'entre nous peuvent surgir des hommes enseignant une fausse doctrine ? D'entre nous. Cette fausse doctrine, elle n'est pas venue loin dans le monde, elle est venue d'entre nous. Eh bien, l'apôtre l'annonce déjà. Il l'annonce déjà. Je sais qu'après mon départ, il se lèvera d'entre vous-mêmes des hommes qui annonceront des doctrines perverses pour attirer les disciples après eux. Et en fait, tous ceux qui se sont établis comme étant chefs de fausses doctrines, en fait, ils étaient, comme on dit un peu ordinairement, pétris d'orgueil, cherchant à attirer les hommes à eux-mêmes. C'est cela, chers amis. On énonce une fausse doctrine, mais rapidement, la doctrine elle-même devient secondaire. Ce qui apparaît, c'est cet orgueil énorme, attirer les âmes à soi-même. Et c'est ce que font les faux docteurs, ce qu'ils ont fait au cours des siècles, c'est ce qu'ils font encore maintenant, s'ils devaient en surgir. C'est pourquoi veiller, alors voilà l'impératif. Veiller, c'est pas dormir, c'est le contraire. L'apôtre nous dit, c'est pourquoi veiller, et on n'a pas veillé, on s'est endormi. Comme notre parabole le dit, pendant que les hommes dormaient, on s'est endormi, et ce sommeil spirituel va devenir le sujet d'une autre parabole du royaume des cieux, c'est-à-dire la parabole des vierges sages et des vierges folles. Pendant que les hommes dormaient, cela, chers amis, doit avoir un écho pour nous. Où en sommes-nous dans ce sens, dans cette perspective de la vigilance? Est-ce que véritablement nous veillons? Est-ce que nous ne risquons pas de nous endormir? Et ce sommeil spirituel se manifeste par cette accommodation au monde, aux choses qui sont dans le monde. Peu à peu, nous aimons le monde, nous aimons les choses qui sont dans le monde. Nous devenons des chrétiens mondains. Nous ne veillons plus, chers amis. Nous ne pouvons pas prétendre à la vigilance tandis que nous sommes dans des conditions semblables. Non. Nous ne veillons plus, nous dormons pendant que les hommes dormaient. Il y a quelque chose de puissant comme enseignement et comme exhortation pour nous tous, chers frères et sœurs. Ne dormons pas, mais au contraire, veillons. Veillons, comme le dit le serviteur de Dieu ici, ne vous souvenant que durant 3 ans, ne cessez du déjour d'avertir chacun de vous avec larmes. L'apôtre n'avait pas dormi, l'apôtre veillait.
Nous avons vu que nous sommes prévenus par l'apôtre Paul, par l'apôtre Pierre, l'apôtre Jude, et aussi par l'apôtre Jean dans son épître. Nous sommes aussi prévenus qu'il y aura des faux prophètes qui sortiront. Alors, il y a une chose, quand on a vu hier dans la parabole du semeur, le diable, il essaye d'enlever la semence, C'est un des dangers, une des manières dont il agit, enlever ce qui a été semé. Deuxième manière, c'est ce que nous avons dans cette parabole, c'est de mélanger, de mettre quelque chose qui ressemble à la semence. On a dit que l'ivraie, on ne pouvait pas la reconnaître au début. Et on voit dans notre passage, lorsque la tige montant et produisit du fruit, aussi l'ivraie parut. À ce moment-là, quand c'est monté, on voit, mais il y a un mélange qui est là. Et tout à l'heure, notre frère a cité l'épître de Jude. Et j'aimerais revenir un peu sur cette épître pour montrer combien ces choses sont cachées. Au verset 12 de l'épître de Jude, « Ceci sont des taches dans vos agapes. » Et si on regarde la note P, ce sont des écueils. Quand on va au bord de la mer et qu'il y a des rochers, si vous allez en Bretagne, par exemple, on voit l'océan et on ne se rend pas compte qu'au milieu, caché, il y a un écueil dangereux, quelque chose contre lequel on peut buter. Ce sont des écueils, des dangers cachés. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant des festins avec vous sans crainte, se repaissant eux-mêmes, nuées sans eau, emportées par le vent. Quand on voit par exemple Élie, quand il prie pour qu'il y ait de l'eau qui vienne, on voit tout d'un coup la nuée qui monte et on se dit voilà la bénédiction qui arrive, il y a l'eau qui arrive. Là ce sont des nuées, ça ressemble à quelque chose qui apporte la bénédiction. Mais ce sont des nuées sans eau, elles font juste de l'ombre si on peut dire, ça n'apporte rien. Ce sont des arbres d'automne sans fruits, un arbre qui doit produire du fruit. Ça ressemble à un arbre, quelque chose qui est bon, mais c'est un arbre d'automne passé, sans fruits, pas de fruits. Ce sont des vagues impétueuses de la mer, jetant l'écume de leurs infamies, quelque chose qui est sans repos. Alors que quand on reçoit la parole par un serviteur de Dieu, de la part de Dieu, cela produit le repos dans le cœur. Là, ça produit quelque chose qui est sans repos, des vagues impétueuses. Et puis, ce sont des étoiles errantes, à qui l'obscurité des ténèbres est réservée pour toujours. Une étoile, normalement, c'est fait pour diriger, pour éclairer. Là, c'est une étoile qui erre, qui ne peut pas diriger. Et c'est une étoile qui est sans lumière. Il n'y a pas de lumière. Voilà ce que sont ces faux docteurs, ces faux prophètes qui sont là, cachés, qui arrivent sans qu'on s'en rende compte. Et pourtant, chers frères et sœurs, nous sommes prévenus. Et comme on l'a déjà dit, ce que l'apôtre Paul nous dit, ce que l'apôtre Paul nous a dit tout à fait au début, c'est pourquoi veiller, veiller. Ici, celui qui vient, c'est l'ennemi, son ennemi. Pendant que les hommes dormaient, ce n'est pas n'importe qui est venu, c'est son ennemi. L'ennemi de l'homme qui avait semé de la bonne semence dans son champ. L'ennemi de notre Seigneur, qui est là. Lui, il ne dort pas, il veille toujours, si on peut dire. Et nous, alors, il faut que nous soyons des bons serviteurs, que nous ne soyons pas comme ceux qui dorment.
Le mot ivraie dans l'original, c'est... provient du grec, c'est le mot qui a donné zizanie. Zizanie, la discorde, la dispute. Mais on voit bien que c'est une des manières, une des semences que l'ennemi sème. Donc c'est un peu un autre aspect des choses, mais ce n'est pas seulement la fausse doctrine qui est semée ça et là, des éléments douteux, étrangers, au début indiscernables, et puis qui se révèlent peu à peu. Mais c'est aussi cet esprit de contestation, de dispute qui disloque alors, hélas, ce qui est selon Dieu, qui vient apporter cette division dont nous n'avons que trop d'exemples dans l'histoire de l'Église. Historiquement, nous avons déjà un premier grain d'ivraie, nous pouvons dire, quand Simon le magicien, au chapitre 8 des Actes, vient se faire baptiser, lui aussi, et puis il veut donner de l'argent aux apôtres pour avoir lui aussi le pouvoir de faire des miracles. Et cet homme est déjà en figure l'introduction d'éléments étrangers, c'est-à-dire d'éléments qui n'ont pas la vie. L'ivresse, c'est une plante qui a donc une apparence extérieure, c'est de l'herbe, mais il n'y a pas de fruit. Encore une fois, nous avons insisté hier sur cet aspect du fruit. Et on peut dire dans la parole, nous avons bien des fois cet enseignement toute chair est comme l'herbe. Et nous parle de la fleur des champs, des fleurs, il y a des fleurs, mais pas de fruits. Psaume 92 aussi. Les méchants poussent comme l'herbe, poussent vite, poussent bien, pas d'épines, pas de rien pour étouffer, mais voilà, la fleur est là, et puis c'est jeté au feu. C'est le sort ici de l'ivraie. Et puis on a, alors dans la suite de l'histoire, on a du temps de l'empereur Constantin, alors ce vaste mélange qui s'établit. Avant, on savait qui étaient les chrétiens. C'était des gens persécutés. On les trouvait dans les prisons, on les trouvait dans les arènes. On savait les trouver, les chrétiens. Ensuite, on n'a plus su les trouver. Il y en avait partout, il y en avait de vrais, il y en avait de faux. Et aujourd'hui encore, nous sommes dans cet état-là. La grande chrétienté professante qui assemble, qui réunit dans des églises de multitudes des gens qui ont la vie, d'autres qui ne l'ont pas. Encore une fois, seul l'œil du Seigneur le discerne, mais dans la mesure, 2 Timothée nous donne un autre enseignement, dans la mesure où nous sommes exercés pour cela et nous recevons l'injonction de nous retirer. Pas pour former quelque chose de meilleur, mais pour obéir au Seigneur, pour être... pour obéir à sa parole.
On rattache à ivresse, c'est le même radical, et c'est une plante aux graines toxiques qui apporte cette espèce d'ivresse, un empoisonnement, et on ne peut le discerner qu'à maturité. D'autre part, ceux qui sont les esclaves demandent pour que cette ivraie soit cueillie. Il est bien évident que le fait de cueillir implique un sens de jugement. Or, la période de la grâce n'était pas du tout propice, n'était pas du tout celle dans laquelle un jugement doit être exercé. Le jugement est reporté jusqu'à la fin de l'économie. Dieu prend patience. Sauf que les esclaves se trompent en demandant pour enlever l'ivraie. Mais contrevenant à cette parabole du Seigneur, les hommes l'ont fait. Et nous n'avons qu'à interroger l'histoire de la chrétienté pour nous souvenir avec quelle fureur, avec quelle effroyable cruauté, ceux qui étaient réputés comme étant livrés alors que c'était le bon grain, ont été arrachés dans des conditions qui glacent d'effroi. Vous avez entendu parler sans doute à cette époque-là, de ce qu'était le monitoire. Un monitoire, le prêtre se levait et donnait donc un avertissement solennel et en quelque sorte plaçait sous un serment formel tous ceux qui étaient assistants de ne pas sceller ceux qui étaient connus comme étant de vrais croyants, qui disaient la parole de Dieu par exemple. Et la parole de Dieu, c'est quelque chose d'abominable, était citée, tronquée, tordue pour produire cet effet que le prêtre voulait donc manifester pour s'emparer de ce qu'on en appelait les hérétiques. Et il lisait ceci. « Qui se lèvera pour moi contre les méchants ?» Voilà, disait-il, le Seigneur parle. « Qui se lèvera pour moi contre les méchants ?» Qui se tiendra avec moi contre les ouvriers d'iniquité? Bien, vous êtes tenu de déclarer, de dénoncer, d'indiquer tous ceux qui sont des ouvriers d'iniquité c'est-à-dire tous ceux qui étaient réputés être délivrés alors qu'il s'agissait du bon vin. Horreur sans nom. Les annales de l'Église sont les annales de l'enfer. On comprend le jugement de Babylone dans le livre d'Apocalypse. Donnez-lui comme il en a été pour elle. Donnez-lui le double, car en elle a été trouvé tout le sang des saints. Nous disons encore seulement ceci. Fallait les laisser croître jusqu'à la moisson. Et à ce moment-là, l'ivraie est assemblée en botte. Et nous avons là une indication qui a été souvent relevée de ce qui se passe aujourd'hui. Au fur et à mesure que nous arrivons vers la fin, les bottes se forment. Les bottes des associations des hommes en bottes commerciales, politiques, culturelles, toutes les associations du monde qui foisonnent aujourd'hui, montre bien que les bottes sont en train de se former. Les associations dans lesquelles les hommes veulent trouver du soulagement à leurs difficultés, des solutions à leurs problèmes. Que de bottes aujourd'hui, pour ne rien dire de celles qui se forment en Europe occidentale. On sait que 1992, par exemple, est présenté comme une date clé. Et dans un grand journal de notre pays, chacun sans doute l'a vu, on disait « ce sera le Nirvana en 1992 ». Qui est semblable à la bête, qui peut combattre contre elle un système politique, un système religieux, un système militaire pleinement unifié, qui constituera une botte qui remplira la terre d'émerveillement. Le Nirvana, dit, ce sera le paradis sur terre. Nirvana, c'est le paradis des bouddhistes. Voilà les bottes qui se forment. Mais que dit le Seigneur à l'égard de ces bottes dans le prophète Ésaïe? Nous avons eu l'occasion déjà de voir cela dans l'assemblée locale à laquelle nous nous rattachons. Dans le prophète Ésaïe, il y a un passage qui nous montre la fin des associations que les hommes forment aujourd'hui. Dans le chapitre 8 du prophète Ésaïe, c'est un passage à bien noter, nous lisons au verset 9 du chapitre 8 du prophète Ésaïe, « Associez-vous, peuple, ou unissez-vous, ou formez des bottes, associez-vous, c'est une invitation. » Il y a, nous dirions, un peu d'humour amer de la part du Seigneur en voyant l'état de son peuple, l'état des hommes en général, en relation avec Emmanuel qui sera rejeté. Le résultat au verset 9, « Associez-vous, peuple !» Et à la note, vous voyez, « Poussez des cris de guerre ou soyez méchants !» Donc le principe de l'association que l'Esprit de Dieu présente ici, invitant sous une forme humoristique les hommes à la réaliser, c'est en fait « Soyez méchants !» Manifestez votre méchanceté par les associations que vous êtes en train d'élaborer. Et quel est le résultat? Eh bien voilà, vous serez brisés. Et en effet, la pierre va tomber de la montagne sans main et va briser la statue dans tout ce qu'elle comporte de gloire pour l'homme, d'élévation, d'orgueil. Tout sera mis en pièces. Il ne restera rien de cette statue. Pas même un tesson, dit le Seigneur, quand je vais briser les nations, que je vais les réduire en pièces. Comme un potier qui prend une barre de fer et qui brise un vase dans lequel il ne prend pas plaisir, on ne trouve plus un seul tesson, soit pour prendre un peu d'eau ou un peu de feu. Il ne reste plus rien.
Ici, de la bonne semence. Cette bonne semence n'est-elle pas définie par ce verset? Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut? Par la foi qui est dans le Christ Jésus, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre, c'est-à-dire une plante qui est prête à porter du fruit.
Apportez un peu d'attention à cette expression. Dans notre parabole, un homme qui se met de bonnes semences dans son champ. Et Luc nous dit, dans le chapitre 8, la semence est la parole de Dieu. Or, dans l'explication de la parabole, il semble qu'il y ait là quelque chose d'intéressant à relever et qui mériterait d'être expliqué. Au verset 37, « Et lui répondant leur dit, celui qui sème la bonne semence est le Fils de l'homme, le champ c'est le monde. Bon vu, Seigneur est sorti de la maison, s'assied près de la mer. Le champ c'est le monde. » Et remarquons maintenant ce qui est dit, « Et la bonne semence, ce n'est pas la parole de Dieu ici, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. » Comment concilier le fait que dans l'énoncé de la parabole, la semence, c'est la parole de Dieu, Luc le confirme, et dans l'explication de la parabole, la semence, ce sont les fils du royaume. Peut-être c'est un passage du livre des Actes où nous avons quelque chose qui mériterait d'être... Chapitre 11 du livre des Actes, verset 26, mais en fait, il y a encore quelque chose là-dessus. Parce que c'est très important, on va le voir. Verset 26, « Ce fut Antioche, premièrement, que les disciples furent nommés chrétiens, autrement dit, identifiés avec Christ. » Et dans la fin du chapitre 12, « Mais la parole de Dieu croissait et se multipliait. » La parole de Dieu ne peut pas croître en elle-même. Elle est ce qu'elle est, elle est parfaite. Mais elle croissait dans ceux qui l'entendaient, dans ceux qui l'avaient reçue. Donc la parole en effet identifiée avec ceux qui l'ont reçue. Les fils du royaume sont identifiés avec cette semence qu'ils ont reçue dans le cœur. La vie a été produite, des fruits la manifestent et le Seigneur identifie les fils du royaume avec la semence elle-même. N'est-ce pas le cas des Thessaloniciens ? La parole de Dieu a retenti de chez vous dans le monde entier. L'état des Thessaloniciens dans ces beaux jours du commencement avait donné un essor à la parole de Dieu, avait donné une audience à la parole de Dieu qui se répandait dans le monde entier. On ne disait pas seulement que voilà des gens particuliers qui ont adopté des vues particulières, non, mais c'était la parole de Dieu qui s'était répandue par leurs moyens dans le monde entier. Alors, pour encore dire un mot, avec l'identification de la parole de Dieu et des fils du royaume, nous avions l'autre jour, dans notre réunion, rappelé un verset de Lévitique. Peut-être que c'est intéressant de le rappeler également ici, pour montrer la différence entre la parole de Dieu, fils du royaume, et la parole de Dieu identifiée avec Christ lui-même. Dans le chapitre 11 du livre de Lévitique, rapidement, nous allons citer ce verset, et on voit que même dans les types, dans les ordonnances les plus banales, semble-t-il, de l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu est déjà là pour nous montrer les gloires et les perfections de Christ, à travers ce qui pourrait nous sembler de peu d'importance. Dans ce chapitre 11 de l'île des Lévitiques, donc au verset 29, nous avons ce qui est impur, le reptile, le serpent, nous comprenons bien qu'il s'agit de la puissance du mal, nos frères en ont parlé abondamment à l'occasion de cette parabole. Et nous avons ensuite la question d'une semence, au verset 37, « Et s'il tombe quelque chose de leur corps mort sur une semence qui se sème, elle sera pure. » Donc s'il tombe quelque chose de ce corps mort, du serpent, du reptile, sur une semence qui se sème, elle est pure. N'a donc pas été dégradée, altérée par le contact avec le serpent, avec le mal. Comment se fait-il ? Nous continuons. Mais si on avait mis de l'eau sur la semence et qu'il tombe sur elle quelque chose de leur corps mort, elle sera impure. Sur la semence qui est sèche, qui n'a pas été en contact avec l'eau, la semence qui se sème, le contact avec le serpent ne l'altère en aucune manière. Le Seigneur disait « Je veux, sois né » en touchant un lépreux. N'était-il pas, oui, le vrai grain de blé, la vraie semence venant dans ce monde, pouvait toucher le mal sans jamais le contracter. Je te dis, sois né, et le lépreux s'en va, libéré de sa lèpre, sans que le Seigneur soit caractérisé, altéré dans sa perfection par quoi que ce soit. Qui d'entre vous me convainc de pécher ? Aussi pur, disait un cher frère de France, aussi pur, aussi séparé à la fin de sa vie qu'il l'était au commencement. Mais, dans le cas de la semence qui a été au contact de l'eau, il s'agit sans doute des fils du royaume, puisque nous avons été engendrés par la vivante et permanente parole de Dieu qui est comparée à l'eau, née d'eau et de l'Esprit. Alors ceux qui ont été engendrés par la parole de Dieu et qui sont devenus des fils du royaume, qui ont eu un contact avec cette parole de vie, eux, s'ils touchent quelque chose du reptile, ah, il n'est pas dit que la semence est pure. Dans ce cas, évidemment, nous sommes caractérisés par la souillure, nous sommes impurs.
Au sujet de ce terme chrétien, donc la parabole de l'ivraie nous parle d'un immense mélange dans le royaume des cieux. Il y a d'une part vraiment les chrétiens. Celui qui est un chrétien a la vie de Dieu, il est identifié avec la personne de Christ, il est associé à lui-même, voilà ce qu'est un chrétien. Et puis d'un autre côté, il y a ceux qui se disent chrétiens mais qui ne le sont pas, comme on le dit couramment, ils sont simplement des professants, ils professent, ils parlent, ils peuvent même parler de Dieu, ils peuvent parler du Christ, de la Bible, ils parlent des éléments constituant le christianisme, mais ils n'ont pas la vie de Dieu, donc ce ne sont pas des chrétiens. Le mot chrétien ne se trouve pas souvent dans la parole, dans le Nouveau Testament évidemment, trois fois. Trois fois, nous rencontrons ce terme chrétien. Le passage que notre frère vient de citer en acte 11, où il nous a dit ceci, que c'est à Antioche, premièrement, que les disciples furent nommés chrétiens. Les disciples sont donc identifiés avec le Christ, voilà ce qu'exprime ce terme de chrétien. C'est à Antioche que pour la première fois les disciples ont été nommés chrétiens. Dans le second passage, dans le même livre des Actes des Apôtres, il s'agit d'une parole du roi Agrippa qui dit ceci, « Tu me persuaderas bientôt d'être chrétien ». Et alors la réponse admirable de l'apôtre Paul, pas seulement toi. Je ne voudrais pas que ce soit seulement toi qui sois un chrétien, mais tous ceux qui sont là, venus en grande pompe à Césarée. Tous ceux-là, je voudrais qu'ils soient comme moi, je suis hormis ces liens. Cette scène est remarquable, elle est même touchante. On voit le serviteur de Dieu, un prisonnier, il est muni de liens et il vient parler de sa jouissance ineffable d'être au Seigneur, celui qui a été livré pour ses péchés, celui qui a été ressuscité pour sa justification. L'apôtre jouit pleinement du Seigneur et il voudrait que ce soit la part de tous ceux qui sont là en face de lui. Tous ceux-là qu'il avait l'apparence, la gloire du monde, qui étaient venus en splendide pompe, il aurait voulu que tous connaissent vraiment le Seigneur pour leur sauveur, comme c'était le cas pour l'apôtre Paul. Agrippa de dire « Tu vas bientôt persuader d'être chrétien ». Et la réponse de l'apôtre nous montre ce qu'est vraiment un chrétien, quelqu'un qui a la vie de Dieu, quelqu'un qui est identifié avec Christ, quelqu'un qui jouit intensément de la personne de Christ, comme c'était le cas pour l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui n'avait aucune autre raison d'être sur cette terre, de vivre ou de travailler sur cette terre que la personne de Christ. Pour moi, vivre, c'est Christ. Et le troisième passage est dans la première épître de Pierre, où il nous est dit ceci, chapitre 4, verset 15, « Que nul de vous ne souffre comme meurtrier ou voleur, ou comme faisant le mal, ou s'ingérant dans les affaires d'autrui, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu en ce nom. » Le nom du Christ, le nom de Christ, d'où vient le mot chrétien? Eh bien, d'une part, acte 11 nous montre ce que c'est que d'être un chrétien, identifié avec la personne de Christ. Deuxième passage, acte 26, cette jouissance que comporte le fait d'être un chrétien, si bien, si magnifiquement réalisé par l'apôtre Paul. Et alors, dans la parole de l'apôtre Pierre, nous avons alors la pensée de la souffrance qui se rattache au fait d'être un chrétien. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais que ce soit pour lui l'occasion de glorifier Dieu en ce nom, le nom du Seigneur, le nom de Christ, d'où vient ce terme de chrétien. Ce sont là les trois passages où nous avons ce mot chrétien qui nous paraît être riche, véritablement riche d'instructions et en même temps d'exhortations pratiques pour nous. Il est dit à la fin de la parabole de livrer, et au temps de la moisson, je dirais au moissonneur, cueillir premièrement l'ivraie et lier là en botte. Notre frère vient d'en parler pour la brûler, mais assembler le froment dans mon grenier. Un autre frère nous en a parlé au début de la réunion, ce grenier céleste, le ciel même, où un jour alors tous ceux qui auront réellement reçu le Seigneur dans leur cœur, vraiment ces fils du royaume, cette bonne semence dont le Seigneur parle dans l'exposition de la parabole, c'est là, chers amis, notre espérance, par grâce, par pure grâce, c'est là que nous nous dirigeons vers le ciel, comparé ici à un grenier, assembler le froment dans mon grenier. Le Seigneur est tout d'abord lui-même, le grain de blé qui est tombé en terre, par conséquent n'est pas demeuré seul, et il y a tous ceux qui sont à lui maintenant, tous le fruit du travail de son âme, tous seront réunis un jour que nous voulons souhaiter prochain, très proche. Un jour, nous serons tous, par la grâce de Dieu, assemblés dans les célestes greniers. Puissions-nous nourrir dans nos cœurs une telle espérance, saluer ce jour prochain où, à jamais, toujours dans la gloire du ciel, nous serons avec le Seigneur.
Ou le froment, ou l'ivraie. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est l'un ou c'est l'autre. Et il ne peut peut-être pas inutile de souligner cela parce que il y a une manière de voir assez courante, même dans les milieux évangéliques, qui dit ceci, que lorsque le Seigneur viendra enlever son Église, en fait, il n'enlèvera que les vainqueurs, ceux qui sont désignés dans l'Apocalypse, à celui qui vaincra, et que ce seront donc les chrétiens fervents, fidèles, qui seront enlevés, les autres étant laissés. Cette théorie est non seulement anti-scripturaire, mais absurde. Elle est anti-scripturaire, comme notre passage le montre, parce que si une partie de la moisson, c'est-à-dire des grains ayant vraiment des grains de froment, devait être laissée dans le champ, ce serait pour être brûlée avec l'ivraie. D'autres passages peuvent encore appuyer cela, mais cela nous mènerait peut-être un peu loin. Mais elle est aussi absurde, parce que si ce sont les chrétiens en bon état, nous savons tous, hélas, par expérience, qu'il y a des jours où nous sommes, par la grâce de Dieu, vainqueurs. Nous avons des moments heureux avec le Seigneur, par son secours à une tentation. Nous faisons partie donc des vainqueurs, mais le lendemain, nous pouvons avoir une défaillance, un manquement, une chute. Alors, ça voudrait dire que le Seigneur aujourd'hui m'enlèvera parce que je suis parmi les vainqueurs, mais que demain, il me laisserait s'il venait. Donc, ce serait ma condition, mon état, qui déterminerait le fait que je suis enlevée ou classée ou conduit une telle théorie. Et nous aimons le souligner parce que c'est quelque chose qu'on trouve dans certains écrits même qui peuvent se trouver dans nos bibliothèques, mais c'est absolument sans aucun fondement biblique et, comme je l'ai vient de dire, absurde quant à ses conclusions. Un des passages parmi plusieurs autres qui nous montre que l'Église sera enlevée avant la tribulation. Nous savons qu'il est dit à Philadelphie, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière. Dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, il nous est aussi dit que c'est quand celui qui retient et ce qui retient sera loin, alors sera révélé l'inique. Alors sera le moment de la tribulation. Et les Thessaloniciens étaient troublés parce qu'ils voyaient toutes ces persécutions, toutes ces épreuves qui les atteignaient. Ils se disaient, mais le Seigneur est venu, il a enlevé les siens et nous restons puisque nous passons par ce feu de l'épreuve. Non, répond l'apôtre, de la part du Seigneur, ce n'est pas le moment. L'Église sera enlevée d'abord et alors viendra le moment de la tribulation. Une preuve encore, n'est-ce pas, c'est que les psaumes, nous le savons, s'appliquent à un temps où les fidèles qui sont sur la terre crieront et appelleront la délivrance, et la délivrance viendra par la vengeance, c'est-à-dire par la destruction des ennemis. Si l'Église avait à traverser la moindre partie de la tribulation, elle aurait à parler comme les psaumes, c'est-à-dire à demander la vengeance. Ce serait complètement contraire à la grâce dont nous sommes les témoins. Nous sommes dans l'économie de la grâce. Et elle prendra fin quand l'Église sera enlevée. Et alors viendra un temps terrible, ce temps de la tribulation. Il est bon d'avoir bien précis à la pensée ce déroulement pour ne pas confondre les économies, ou comme on dit, les dispensations, et bien situer le moment où nous sommes encore dans le temps où la moisson se prépare, elle mûrit pour être tout à l'heure engrangée lors de la venue du Seigneur pour retirer les siens. Et c'est alors seulement, comme nous le montre notre parabole, que l'ivraie qui se lie en botte, comme on l'a entendu, sera brûlée et détruite.
C'est que sur les 10 paraboles du royaume des cieux dans l'évangile selon Matthieu, c'est notre frère M. Lowe dans son opuscule Le royaume des cieux d'une très grande richesse qui fait remarquer cela, et c'est important. Il y a 3 paraboles qui sont introduites par le verbe au passé. Le royaume des cieux a été fait. Il y a 6 paraboles qui sont introduites par le verbe au présent. Le royaume des cieux est semblable. Et une, la dernière, chapitre 25, par l'expression « au futur, le royaume des cieux sera fait semblable ». Donc, a été fait, 3 paraboles, 1, 7, 9, 6, est semblable, et la dernière, la 10e, sera fait semblable. Citons seulement les 3 paraboles où le verbe est employé au passé, celle-ci. Le royaume des cieux a été fait semblable à un homme qui semait de bonnes semences dans son champ. A été fait nous reporte donc au commencement, à l'origine de l'existence du royaume des cieux. Il a commencé évidemment par la semence qui a été jetée dans le champ. Il n'y a pas de difficulté. Il a été fait semblable, à quelque moment que l'on se place dans l'histoire, ce royaume des cieux a été fait semblable à un homme qui semait de la bonne semence. C'est le passé, le début du royaume des cieux. Nous tournons quelques pages de notre évangile selon Matthieu, et au chapitre 18, rapidement, nous avons la question de Pierre qui, au verset 21, s'approche du Seigneur. « Seigneur, combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi et lui pardonnerai-je ? » Alors, c'est l'occasion pour
introduire une parabole du royaume des cieux. Nous avons dit hier dans l'introduction que c'est un enseignement simple, concret, mais parfait et spontané. Le Seigneur est le seul à présenter des paraboles, d'où leur intérêt, leur prix pour nous. Et vous voyez ici, en réponse à une question de Pierre, le Seigneur répond par une parabole dont le sens est caché pour tous, mais révélé pour ceux qui ont une oreille ouverte, dans le cœur desquels la parole de Dieu opérait. Alors que dit le Seigneur ? C'est pourquoi le royaume des cieux a été fait semblable à un roi qui voulut compter avec ses esclaves. Et nous n'allons pas expliquer toute cette parabole, nous disons seulement comme idée générale que c'est ce qui a eu lieu au milieu du peuple d'Israël, à qui Dieu a fait grâce en réponse à la prière du Seigneur sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Et Dieu a consenti à remettre une dette énorme à ce peuple, et ensuite, hélas, s'opposant de toute leur force, de toute leur énergie aux gentils, quand la grâce leur a été présentée. Il disait de l'apôtre Paul, sans doute, le traité de renégat, il disait, cet homme n'aurait pas dû vivre, hein, qu'il nous annonce l'évangile, nous le supporterions encore, mais qu'il nous ait dit qu'il se tournait vers les nations, cet homme mérite la mort. La haine des juifs contre la propagation, la prédication de la grâce que Dieu faisait aux gentils. Donc, le royaume des cieux a été fait semblable, et dans le livre des Actes, nous voyons déjà, nous l'avons entendu, Paul est traduit devant le tribunal des hommes et il devra s'expliquer sur le fait qu'il s'est tourné vers les nations. Avec quelle haine implacable les Juifs vont le poursuivre, montrant bien tout ce qu'ils sont dans le fond de leur cœur contre Dieu, contre l'Évangile et contre son serviteur. La neuvième parabole, c'est donc au chapitre 22, la troisième et dernière parabole introduite par « a été fait ». Le Seigneur dit « Le royaume des cieux a été fait semblable à un roi qui fit des noces pour son fils ». Alors, que s'est-il passé ? Seigneur est rejeté comme prophète, Seigneur est rejeté comme le roi qui vient selon la prophétie de Zacharie dans le chapitre 21. Ensuite, le figuier est devenu sec. Voilà les conditions réunies pour que Dieu nous montre, à côté de tout ce qui est décevant, tout ce qui est perdu pour l'homme, le Seigneur va nous montrer ce qui était dans le cœur de Dieu. Le péché de l'homme n'a été que l'occasion fournie à Dieu de déployer des plans bien plus merveilleux. Qu'est-ce que Dieu a fait ? Ô profondeur des richesses, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, comme ces pensées sont introuvables, qui a pu conseiller à Dieu de telles pensées ? En relation, en liaison avec le mal que l'homme a pu faire et porter à son sommet en crucifiant le Seigneur Jésus, Dieu lui va montrer ce qu'il est dans son amour. Un roi fait des noces pour son fils, en opposition avec ce que le Seigneur va connaître au milieu de son peuple. Dieu a comme propos de faire des noces pour son fils. Et ceux qui sont invités, ceux qui sont conviés, sont là présentés devant nous. Et hélas, que vont-ils faire ? Mais ils ne tiennent pas compte. L'invitation a été faite aux Juifs. Il fallait annoncer l'Évangile en commençant par la ville de Jérusalem, Luc 24, la ville la plus coupable. Et que lisons-nous ? Mais eux n'ont pas tenu compte de cette invitation. Et au contraire, ils ont outragé et tué tous les mandataires du roi qui voulaient faire des noces pour son fils. Et que va-t-il arriver à ces méchants ? Eh bien, le roi allait envoyer ses troupes, faire périr ces meurtriers-là, brûler leur ville. C'est le sac de Jérusalem. Le royaume des cieux a été fait semblable, nouvelle fois, dans cette parabole, pour montrer tout ce qui s'est passé au début de cette prédication de l'Évangile au milieu des Juifs, les résultats qui en ont été produits, leur opposition, leur méchanceté, qui se terminera, hélas, 40 ans après la mort du Seigneur. Un temps de patience sera encore accordé, mais c'en est fini de Jérusalem. Le Seigneur a pleuré sur elle. Ah, si tu eusses connu les choses qui appartiennent à ta paix. Mais, hélas, tout fut consommé. La ville passée au fil de l'épée, le temple brûlé, et 1 million de Juifs allaient perdre la vie. Le roi irrité fit périr ces meurtriers-là et brûla leur ville, leur royaume. Voilà ce qui s'est passé déjà au début de la sphère du royaume des cieux.
Nous avons après la parabole de l'ivraie et les deux autres paraboles de la première série dont on parlait au début de la réunion. La parabole du grain de moutarde et la parabole du levain. Ce sera l'occasion de parler de ces deux paraboles suivantes cet après-midi, Dieu le permettant, et nous pourrons reprendre la lecture de notre chapitre au verset 31.